France Inter. Nicolas Demorand. Le 7-9.
Il est toujours, tout juste, 7h, vendredi 25 janvier. Bonjour à tous et bienvenue sur France Inter. Agnès Soubiran, bonjour.
Bonjour.
À la une de l'actualité ce matin, Agnès, un premier face-à-face direct entre le chef de l'État et les Français. Emmanuel Macron s'est invité hier soir à un débat dans la Drôme, un exercice qui visiblement réussit au président, qui remonte dans les sondages. On voit ça après les autres titres.
L'inquiétude des expatriés français qui vivent au Venezuela, toujours aucune certitude. Après deux semaines d'audience au procès des policiers du 36, Lucas Pouille parviendra-t-il à battre Novak Djokovic en demi-finale de l'Open de tennis d'Australie? Le match débute dans un peu plus de deux heures. Et puis, on terminera avec la belle histoire de Kekuta et Mamie Clémentine.
Les invités de France Inter ce matin, à 7h50, les historiennes Annette Wieworka et Danielle Voldemann. Elles publient Triste grossesse, l'affaire des époux Bach. C'est aux éditions du Seuil. Elles seront au micro d'Ali Badou. 8h20, comprendre la situation politique et sociale de la France, suite de nos entretiens du vendredi avec aujourd'hui l'historien et professeur au Collège de France, Pierre-Rosan Vallon. Le standard est ouvert, vous connaissez le numéro 01 45 24 7000. Intervenez pour dialoguer tout à l'heure avec Pierre-Rosan Vallon.
France Inter. Il est arrivé discrètement par la porte située au fond de la salle, a serré quelques mains avant de présenter ses excuses. Pardon de m'inviter au dernier moment, je ne veux pas monopoliser la parole. Micro à la main, Emmanuel Macron a pourtant longuement parlé, passant plus de 3 heures hier soir donc à répondre aux questions des 250 personnes qui s'étaient rassemblées pour un débat dans la salle François Mitterrand de la petite commune de Bourg-de-Péage dans la Drôme. Reportage signé Benjamin Hilly.
Ce gilet jaune.
Et ce gilet jaune, il le porte fièrement face au président.
J'ai rien contre vous.
Thierry, 55 ans, un bandana, une allure de motard. Il est en invalidité. Il travaillait dans une structure d'accueil pour handicapés. Emmanuel Macron a pu entendre sa colère.
On en a marre de la politique. Moi, je rêve que vous dissolvez l'Assemblée nationale et que le peuple aille revoter.
Moi, j'entends votre colère, mais on est en démocratie. Moi, j'ai été élu par le peuple. La République française, c'est un vrai trésor. Ne l'abîmons pas, ça. Ne l'abîmons pas. Je veux dire, dites-moi les pays où ces discussions entre un citoyen et un président de la République, on peut les avoir.
C'était vraiment bon enfant comme débat. C'est sympa.
C'est l'épouse de Thierry, Hélène, 53 ans, aide-soignante.
Positif.
Est-ce que ça veut dire qu'il vous a convaincu par certains aspects?
Pas du tout. Je lui dois du respect comme il m'en donne. La révolution, je l'ai fait au bord de la route. Et là, il a eu le courage de venir alors qu'on n'était pas au courant qu'il venait.
C'est pas tous les jours qu'on lui serre la main. Oui. On va faire des cauchemars. Non, c'est pas vrai.
Une démarche qui va dans le bon sens pour apaiser la crise ou pas?
C'est peut-être très sournois de sa part, c'est peut-être très stratégique ou c'est peut-être très sain. Voilà.
Mais merci pour ce débat, j'en aurai d'autres partout sur le pays. Je vous remercie.
Et durant ce débat, Emmanuel Macron est resté ferme sur la suppression de l'ISF. Il a défendu le système du bonus-malus pour les entreprises qui abusent des contrats courts. La vraie inégalité, c'est le chômage, a redit le chef de l'État, qui a également assuré que la taxe d'habitation serait in fine supprimée pour tous les Français. Mais il a également reconnu que la France ne parviendrait pas à se passer à 100% du glyphosate d'ici 3 ans, contrairement aux engagements qui ont été pris. Emmanuel Macron, qui a visiblement trouvé dans l'organisation de ce grand débat national matière à reconquérir l'opinion publique. Plus 3 points d'opinion favorable en un mois, selon notre baromètre Odoxa pour France Inter. Le chef de l'État séduit 30% des Français. Ce qui est aussi frappant dans ce baromètre, c'est la cote de popularité des leaders de l'opposition qui s'effrite sérieusement. Gaël Sliman, le président d'Odoxa, au micro de Maxence Lambrecq.
Oui, il y a une vraie et spectaculaire perte de points, perte de vitesse des principales figures de l'opposition sur notre baromètre politique. Pour Marine Le Pen, c'est très net, moins 5 points. Mais en même temps, elle avait pas mal progressé ces 2 derniers mois et elle reste sur le podium finalement des personnalités politiques qui ont le plus d'influence dans le pays. Jean-Luc Mélenchon, lui, il est sorti du top 10, il l'était déjà le mois dernier et il perd 3 points. Très clairement pour lui, sa propension à surfer sur la colère sociale et le mouvement des Gilets jaunes ne fonctionne pas, ne lui permet pas de rebondir dans l'opinion. Le patron des Républicains, lui, se trouve dans les tréfonds de nos classements de cote d'adhésion et de popularité des personnalités politiques. Il est 17e. Donc on voit globalement que ce mois de janvier ne profite plus du tout aux opposants à Emmanuel Macron.
Le mouvement des Gilets jaunes ne profite pas à l'opposition, c'est à lire également sur franceinter.fr.
Il est 7h05, Agnès, le Venezuela retient son souffle.
Journée relativement calme hier à Caracas. Quand la guerre diplomatique s'intensifie avec Washington, le président en exercice Nicolas Maduro a fermé l'ambassade et les consulats du Venezuela aux États-Unis. Washington, de son côté, rappelle son personnel diplomatique et demande aux ressortissants américains de faire de même. La question se pose également pour les 4000 Français inscrits sur les fiches consulaires. Thibaut Cavaillès a pu en joindre certains.
Alexis est arrivé à Caracas il y a tout juste 5 mois. C'est son épouse enseignante qui travaille. Lui s'occupe de leurs 2 enfants. Depuis quelques jours, sa vie déjà difficile dans un pays miné par la crise, c'est encore un peu plus compliqué.
Évidemment, on ne bouge pas de l'appartement, on reste un peu reclus, entre guillemets. C'est des consignes de l'ambassade et un choix personnel aussi.
L'ambassade de France avait envoyé un message avant les manifestations de ce mardi. Tenez-vous à l'écart, limitez vos déplacements au strict nécessaire, faites des stocks. Alexis avait pris ses précautions.
Disons qu'on avait fait des réserves un peu avant de nourriture et d'eau. Pour l'instant, on n'envisage pas de quitter Caracas.
Miquel Orué, 65 ans, est lui franco-vénézuélien.
La situation politique que nous vivons actuellement est du jamais vu dans ce pays.
Actuel directeur administratif du lycée français de Caracas, il a toujours vécu au Venezuela.
Notre quotidien devient de plus en plus difficile à cause des pénuries alimentaires et médicales, aussi à cause de l'insécurité qui existe dans le pays.
Rester à l'abri des émeutes ou fuir, Miquel, malgré toute une vie au Venezuela, se pose sérieusement la question.
Avec mon épouse, n'ayant plus du tout de famille au Venezuela, étant tout seul ici, il est bien évident qu'à court terme, nous pensons quitter le pays.
Pour venir peut-être en France et retrouver son fils, qui lui a déjà fait son choix.
Et depuis le Panama, où il est actuellement pour les Journées mondiales de la jeunesse, le pape François a appelé à éviter que d'autres souffrances ne soient infligées aux Vénézuéliens, dénonçant les fléaux qui touchent ce pays, la violence domestique, les féminicides, les bandes armées, le trafic de drogue et l'exploitation sexuelle des plus faibles.
7h07, retour en France avec le procès dit du 36 Quai des Orfèvres.
Et au 9e jour des débats, c'est toujours parole contre parole. D'un côté, une touriste canadienne qui affirme avoir été violée dans les bureaux de la BRI et de l'autre, 2 policiers qui évoquent des jeux sexuels consentis et qui ont témoigné hier à la barre. Compte rendu d'audience signé Mathilde Lemaire.
Le premier policier à la barre reconnaît de brèves caresses consenties avec la jeune Canadienne. Le second lance lui « J'ai juste accepté une fellation dans mon bureau ». Deux hommes qui ont contre eux d'avoir beaucoup fait évoluer leur récit au fil des auditions. Au départ, ils niaient en bloc tout contact sexuel. Puis, ils se sont adaptés au fur et à mesure de l'arrivée d'éléments embarrassants dans le dossier, note l'un des avocats de la plaignante. Éléments sur lesquels l'avocat général les cuisine sans ménagement. Il y a entre autres les vidéos prises à l'heure des agressions sexuelles présumées et qui ont été effacées de leur mobile, impossible à récupérer. Il y a leurs traces ADN sur le corps et les dessous de la jeune Canadienne. Il y a ce SMS graveleux que l'un d'eux a envoyé à un troisième collègue, l'invitant à rejoindre au plus vite le bureau pour une partie à plusieurs. Poussé dans ses retranchements, l'un des policiers hier soir lâche, parlant de plus en plus fort dans le micro. « J'ai pas tout dit tout de suite, c'est vrai, mais je l'ai jamais plaqué contre le bureau, jamais violé. Depuis 5 ans, elle ment, je comprends pas pourquoi. » Des mots insupportables pour la plaignante, elle finit par se lever, quitter la salle. Elle sera de nouveau appelée à la barre aujourd'hui. Parole contre parole, 2 semaines déjà d'audience fleuve et la vérité tarde à se manifester clairement.
Et le verdict est attendu vendredi prochain. L'épilogue peut-être d'un crime commis il y a 32 ans près de Toulouse. Martine Escadillas a disparu le 8 décembre 1986 à Ramonville-Sainte-Agne. Elle avait 24 ans, son corps n'a jamais été retrouvé. De multiples pistes ont été suivies sans succès. Et puis mardi, un homme de 55 ans a été interpellé dans le nord de l'Isère. Il a avoué avoir tué la jeune femme qu'il avait été conduit. Il doit être présenté à la justice dans les heures qui viennent. En bref, encore la piste criminelle privilégiée à Courchevel après l'incendie de la résidence qui hébergeait des saisonniers. Les enquêteurs ont découvert des traces d'essence et les témoins parlent d'une faute odeur de carburant. L'incendie avait provoqué la mort de 2 personnes. 4 autres sont grièvement blessées. Pour une place en finale, Lucas Pouille affronte ce matin le numéro 1 mondial, Novak Djokovic. Depuis Joe Wilfried-Tsonga en 2008, aucun Français n'est parvenu à se hisser en finale de l'Open de tennis d'Australie. Et Lucas Pouille y croit. Son copain, Nicolas Mahut, l'a dit à Fabrice Abgral.
Lucas, c'est le joueur qui arrive en demi. Il se dit pas, j'ai réussi mon tournoi, je suis en demi-finale. Donc déjà, c'est un point qui est très important. Il y a beaucoup de joueurs qui pourraient arriver dans cette situation en disant, bah voilà, je reviens un peu de nulle part, je suis en demi, je vais essayer de profiter de l'instant. Bien sûr, je vais essayer de gagner le match. Lui, il est là, je pense, vraiment pour essayer de le gagner et aller au bout parce qu'il a ça en lui depuis toujours. Puis après, en termes de jeu, il sert tellement bien qu'il peut s'appuyer sur son service. Il garde cette qualité de service. Je crois que là, de nouveau, il a repris confiance. Son jeu est bien en place. Il n'est pas émoussé physiquement, donc il est prêt à un combat physique. Je crois qu'il y a les armes pour l'inquiéter. Ouais.
Et début de la rencontre à 9h30 heure française, 3 mois et demi et puis s'en va. Thierry Henry n'est plus l'entraîneur de Monaco. L'ancien champion du monde n'est pas arrivé à redresser la barre d'un club qui s'enfonce 19e au classement de Ligue 1 et élimination en Coupe de France par un club de Ligue 2.
Le bel âge des éditions Glénat pour finir, Agnès, ces éditions qui fêtent leurs 50 ans à Angoulême.
Et cela vaut bien un journal. Chaque jour, les participants au Festival international de la BD peuvent lire le Glénat News, un journal distribué gratuitement à la criée. Jacqueline Petro.
Bravant le froid devant la gare, la brigade tend le petit journal aux arrivants. 4 pages illustrées avec programmes et infos, une idée de Jacques Glénat qui le renvoie 50 ans en arrière.
Ça me rappelle le fanzine qui était le petit journal que je distribuais il y a 50 ans, effectivement. Sauf que ça n'intéressait pas grand monde, tandis que là, le petit journal à la gare, tout le monde le veut.
Pour Jacques Glénat, il y a 3 façons de raconter des histoires et aucune ne doit entrer en conflit.
Aux États-Unis, on aime les héros et notamment les super-héros. Au Japon, on aime raconter des histoires populaires, très longues, en noir et blanc. Alors qu'en Europe, on aime bien les albums cartonnés, bien imprimés, en couleur, qu'on garde dans la bibliothèque. C'est pour ça que chez Glénat, on a commencé par la bande dessinée, puis après les comics, et puis après les mangas qu'effectivement je suis allé chercher au Japon un peu sans le savoir, puisque j'étais parti au Japon pour proposer mes bandes dessinées européennes aux éditeurs japonais, qui n'en ont pas voulu, malheureusement. Et finalement, je me suis dit que j'ai pas fait une si mauvaise affaire que de revenir avec les mangas dans mon cartable.
L'expérience a parlé. Pour la 3e fois, le Grand Prix qui récompense la mangaka Rumiko Takahashi est une édition de Glénat.
Un Glénat BD News, un Glénat.
Et on termine avec une histoire qui pourrait inspirer un dessinateur, celle d'un jeune berger malien, Kekuta Dembélé, demandeur d'asile de 17 ans, qui vit aujourd'hui dans une ferme au sud de la Gironde. Il participait hier au concours régional des apprentis bergers. C'est là que Stéphanie Scoc l'a rencontré.
Au milieu des bergers basques et béarnais, Kekuta stresse un peu. Il a encore du mal avec le français et l'épreuve vétérinaire s'annonce compliquée.
Vous regarderez la dentition.
Oui.
Est-ce qu'elle a eu de la diarrhée ?
Votre nom ?
Dembélé.
Dembélé Kekuta, réfugié de 17 ans, qui après avoir traversé la Méditerranée dans un zodiaque, se retrouve aujourd'hui berger à Gironde-sur-Dro. Au Mali, il s'occupait déjà de quelques brebis et de l'unique vache de la famille. Alors ici, c'est pareil, ou presque.
J'ai fait un peu là-bas, mais c'est nous les animaux. Ils sont tous liberté, quoi. Ils sont dehors. Ici, ils sont tous dedans. Il faut les soigner. Il y a beaucoup de travail, quoi. Mais sur nous, là-bas, on ne coupe pas la jungle. On ne tondit pas la laine. Ça plante plein de choses.
Kekuta a une grande soif d'apprendre. Mais il est aussi capable de donner des leçons aux plus expérimentés des bergers français, comme en témoigne ici son maître de stage, Serge Chiappa.
Il y avait un petit agneau qui avait une irritation d'un œil, de la poussière de foin qui était rentrée dedans. Il avait l'œil fermé. Et nous, dans ces cas-là, on va chez le vétérinaire, on prend une pommade. Et lui, il a pris tout simplement de l'eau dans sa bouche, il a ouvert l'œil de l'agneau, il a giclé, lavé l'œil du petit agneau et qui a guéri.
Kekuta vit aujourd'hui chez son maître de stage, il y a trouvé une nouvelle famille. Sa meilleure amie, c'est la doyenne de la ferme, la grand-mère Chiappa, qu'il appelle affectueusement Mamie Clémentine.
Je suis très content, comme une famille avec moi.
Kekuta et Mamie Clémentine, peut-être le titre de cette future BD.
Merci Agnès Soubiran.